que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Comme je le disais tout à l'heure, bon nombre de personnes sollicitent un financement pour un projet, pour une ONG, ça peut être pour une petite et moyenne entreprise, mais ça ne marche pas. Le projet n'est pas financé. Alors, dans la plupart des cas, ces projets sont mal élaborés et mal présentés, ce qui réduit les chances d'être financés par une banque ou par les bailleurs de fonds. Comment élaborer un projet qu'on appelle projet bancable? Docteur Freddy Mbakata et l'association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement, il est le directeur général. Il est accompagné de Docteur Augustin Kapika, chef de projet à ADES. Leur organisation a déjà eu à réaliser pas mal de projets. Et ces projets ont été financés et continuent d'ailleurs à être financés par les bailleurs des fonds. Alors dites-nous, Docteur Freddy Mbakata, quel est votre secret?
Bon, il n'y a pas un secret particulier. Tout ce qu'il y a, c'est le sérieux qu'on doit mettre dans le travail, ce qu'on a pu faire, surtout au début. Mm-hmm. On a tenu à réaliser tous les objectifs du projet tels que les bailleurs de fonds les demandaient. Mm-hmm. Et au fur et à mesure, en 17 ans d'existence, nous avons acquis une très grande expérience, une renommée qui font qu'aujourd'hui qu'on puisse nous faire confiance. Voilà, c'est ça peut-être le petit secret.
C'est ça le petit secret. Alors, docteur Augustin, dites-nous d'abord, ADES s'occupe de quoi? Qu'est-ce que vous faites exactement dans votre organisation?
Nous sommes dans beaucoup de choses. Vous comprendrez avec moi qu'après 16 ans, plus de 16 ans d'expérience, notre rayon d'action est très important et notre expérience aussi. Mm-hmm. Et nous sommes dans les urgences humanitaires et nous sommes dans le développement durable. Voilà, c'est les deux domaines dans lesquels nous sommes plus.
Donc quand vous parlez de développement durable, on voit l'environnement.
Il y a l'environnement, mais il y a beaucoup plus aussi de projets à caractère communautaire que nous exécutons.
Lesquels, par exemple?
Des écoles. Nous construisons des écoles pour nos populations. Mm-hmm. Nous avons construit des centres de santé, de maternité. C'est des genres de projets durables. Nous sommes même intervenus à aménager des routes et à construire des ponts par moment. Mmh. Et nous avons construit des puits d'eau, d'adduction d'eau. Et c'est ce que moi j'appelle développement durable.
Développement durable. Et voilà, ce sont là les projets que vous développez dans votre ONG. Mmh. Alors, docteur Freddy, dites-nous comment vous faites pour rédiger un projet que les bailleurs acceptent facilement et quelles sont les grandes lignes? Dites-nous comment bien élaborer un projet bancable, comme on le dit.
Bon, il n'y a pas un schéma classique, mais très souvent, certains bailleurs de fonds ont un canevas précis et particulier qu'ils proposent. Mmh. Mais dans les cas où le canevas n'est pas déterminé, il y a certains points qu'on doit obligatoirement suivre. Mmh. Avant toute chose, pour rédiger un projet, il faut faire d'abord une évaluation. Une évaluation dans une communauté bien déterminée pour identifier les problèmes qui se posent à cette communauté. Et après avoir identifié le problème, on va passer à la rédaction du projet proprement dit. Mmh. La rédaction peut contenir 10 points, on peut en avoir plus, mais je vais citer le point que je considère le plus important. Il y a d'abord le titre du projet. Mmh. Le titre doit être très précis, très court, qui ne prête pas une certaine confusion. Si vous devez construire une école dans un village bien déterminé, vous allez dire construction d'une école primaire à Mulungu, province de... Ça c'est clair, ça c'est le titre du projet.
Voilà.
Après le titre du projet, il y a le contexte du projet, où justification du projet. Pourquoi ce projet? Pourquoi vous pensez que les besoins qui se posent dans telle communauté sont des besoins très importants et qu'il faille vraiment intervenir pour aider cette communauté? On peut dire, par exemple, que pour une école, on est dans une province, par exemple, de l'Équateur, il y a une école primaire dans un village bien déterminé, il y a eu la guerre qui s'est passée là-bas, l'école a été détruite et la communauté se retrouve avec des élèves, des enfants qui ne savent pas bien scolariser. Mmh. Voilà un problème. Donc, dans la justification, vous direz, avant la guerre, nous avions une école. Mais avec le mouvement de déplacement interne de population, l'école a été détruite, les bancs ont été utilisés pour le bois de chauffe et autres choses. Donc voilà, vous justifiez. Mmh. Et dans la justification aussi, vous essayez de vendre l'organisme qui va pouvoir exécuter le projet. Vous allez dire pourquoi vous, tel organisme, quelle est l'expérience que vous avez dans les domaines précis, mmh. qu'est-ce que vous avez déjà fait. Donc ça, c'est le second point qu'on peut dire justification du projet. Le troisième point qu'on peut citer, ce sont les objectifs du projet. Vous voulez construire cette école. Quel est l'objectif que vous vous attendez? Si c'est peut-être un projet très important, en dehors de l'objectif global, il peut y avoir aussi des objectifs spécifiques. Mmh. Donc ça, c'est le troisième.
Par exemple, pour l'exemple que vous avez donné pour l'école, que peuvent être les objectifs?
Bon, pour une école, on peut dire par exemple l'objectif global, faciliter l'éducation aux enfants de tel âge à tel âge dans tel village. Mmh. Voilà, ça c'est un objectif global, mais il peut y avoir des objectifs spécifiques que vous pouvez identifier. Mmh. En dehors de l'objectif, il faut déterminer les bénéficiaires, la population cible. Ici, on peut distinguer des gens qui peuvent être des bénéficiaires directs ou des bénéficiaires indirects. Je donne un exemple très clair. On doit distribuer, par exemple, du matériel aratoire à une population déterminée. Les bénéficiaires qui reçoivent le houe, les bêches, les semences ou quoi là, ça sont des bénéficiaires directs. Il y a des bénéficiaires aussi indirects. Quand on va cultiver ce produit, on va le vendre. Ceux qui vont pouvoir les acheter peuvent être considérés comme des bénéficiaires indirects. Donc ça, c'est le quatrième point. Les bénéficiaires, la population cible donc, et la durée aussi pendant les bénéficiaires, vous pouvez déterminer aussi la durée. Vous voulez construire cette école en combien de mois? En 6 mois, en 3 mois, vous devez le déterminer aussi. Alors nous pouvons aller au cinquième point, c'est la méthodologie et le résultat attendu. Quelle sera votre méthodologie? Comment est-ce que vous allez construire cette école? Allez-vous faire participer la population ou pas? Quels sont les résultats que vous allez obtenir à l'issue de l'exécution de ce projet? Ça, c'est un point qu'on peut considérer comme étant le cinquième point. Nous pouvons passer au sixième point. Quelles sont les activités à réaliser? Et ici, vous devez dire qu'est-ce que vous allez faire exactement. Vous devez décrire et le projet doit être le plus clair possible. Nous ferons ceci. Après cela, nous passerons à cela. Et ici, on peut mettre aussi le cadre chronologique, comment les événements vont se passer en exécutant ce projet. En dehors de ce sixième point, nous pouvons passer à un autre point, le septième point, les indicateurs. Hein, vous dites que vous allez construire une école. Quels sont les indicateurs qui prouvent que l'école a été construite, a été exécutée? Donc, il doit y avoir des indicateurs très clairs.
Ça peut être lesquels, par exemple?
Mon collaborateur est le mieux préparé.
Oui, docteur Augustin, parlez-nous des indicateurs.
Oui, il y a les indicateurs, au fait, on ne le retrouve pas comme indiqué. Comme tel, dire c'est un indicateur, il y a ce qu'on appelle cadre logique. Mmh. Il faut élaborer un cadre logique pour chaque projet. Et dans ce cadre logique, vous avez tous ces éléments que vous reprenez au fait qui résument tout le projet. Mmh. Vous avez les indicateurs pour construire une école, pour savoir que réellement cette école-là pourra être construite. On va dire, écoutez, il y a un terrain qui existe, ça c'est un indicateur. On va dire, écoutez, il y a la main-d'œuvre qu'on a en place pour travailler, ça c'est un indicateur. Il y a des briques qui sont disponibles. Et ça, ce sont des indicateurs qu'on peut vérifier et en même temps aussi qu'on peut utiliser, on peut se dire effectivement le projet pourra avoir lieu.
Donc avant de solliciter les financements, vous devez déjà avoir tout ça.
Oui, les indicateurs, oui, vous devez les dire parce qu'à la fin, vous pouvez dire que combien le nombre d'écoles ont été réellement construites et qui sont fonctionnelles. Voilà ça, c'est un indicateur. Mmh. Vous déterminez, si vous deviez construire 10 écoles, à la fin, vous devez dire que nous avons réellement construit, par exemple, 8 écoles et ces écoles sont fonctionnelles. C'est un indicateur. Mmh. Vous pouvez aussi dire combien de latrines, parce que pour une école, il faut aussi une latrine.
Aménager
combien
de latrines.
Hein, sur ces 8 écoles, combien de latrines avez-vous construites? Voilà donc des indicateurs palpables qu'on peut suivre. Mmh. Alors ça c'était donc le septième point, le huitième point, comme il a si bien dit, le cadre logique. Le cadre logique en fait c'est un résumé. qui reprend tous les éléments constitutifs d'un projet que vous devez rédiger. Dans le cadre logique, on doit revoir les titres du projet, les objectifs, la méthodologie suivie, la population cible. Donc, quelqu'un, un bailleur de fonds, peut ne pas lire tout ce que vous aviez écrit, mais en prenant le cadre logique, il peut voir tout ce que vous avez conçu là-dedans.
Donc, c'est un peu comme un résumé.
Un résumé de tout là-bas. D'accord. En dehors de ce huitième point de cadre logique, il y a les budgets du projet. Les budgets, c'est l'aspect financier. Mmh. Et ici aussi, c'est un résumé de toutes les activités que vous allez pouvoir faire. Si vous devez, par exemple, implanter votre école sur un terrain bien déterminé, il va falloir d'abord dessoucher ce terrain. Combien ça va vous coûter. Vous allez faire la fouille. Combien ça va vous coûter? Vous allez utiliser des briques. Combien ça va vous coûter? Alors, ligne par ligne, vous allez, selon toutes les activités que vous avez à réaliser, vous ressortez l'impact budgétaire de chaque ligne afin qu'à la fin, que vous puissiez arriver avec un budget total, avec un chiffre total. Vous allez dire, nous construirons telle école de 6 salles de classe avec latrine, avec douche et ceci. Ça nous coûtera, par exemple, $70,000. Le $70,000 doit, c'est un coût global, mais on doit entrer dans chaque activité pour ressortir ce que vous avez estimé comme coût. Donc voilà, et le dixième point, c'est le plan de suivi et évaluation. Qui va faire le suivi? Parce que vous-même, vous allez faire les activités. Mais qui vous suivra pour se rendre compte que effectivement, à telle période, ils ont dit dans le cadre logique, à telle période, un mois après, nous aurons fini la fondation. Est-ce qu'un mois après, réellement, la fondation a été finie?
Donc, qui peut suivre, par exemple?
Ça peut être le responsable du projet. Si nous sommes là responsables de notre ONG, nous exécutons une activité, par exemple, en Bandaka ou à Bounia.
Il faut trouver un auditeur extérieur qui peut venir.
Vous-même, en interne, vous pouvez avoir un chargé de suivi et évaluation du projet. Ça, il peut faire les premières évaluations. Tout comme les bailleurs de fonds, il peut vous envoyer, lui, parce qu'il ne vous donnera pas tout l'argent en une fois. Il va donner l'argent en tranches. Il vous donne la première tranche, il va envoyer ses évaluateurs pour qu'ils viennent, qu'ils se rendent compte si réellement les travaux prévus pour la première tranche ont été correctement exécutés.
Dans les délais.
Oui. Voilà comment les suivis et évaluations peuvent faire. Donc, je disais que ce sont ces 10 points-là que nous avons retenus, mais ce n'est pas exhaustif, on peut aller au-delà. On peut aussi mettre un autre point, la pérennisation de ce projet. Oui. Si le bailleur se retire, comment la communauté va s'approprier de ce projet?
De ce projet-là.
Voilà donc le point que j'ai jugé utile à soumettre à nos auditeurs.
D'accord, on va revenir tout à l'heure à vous. Comment préparer un projet bancable? Nous avons déjà un auditeur en ligne, Ogi Bendelo, il nous appelle de Kikwit, dans la province du Mandundu. Vous voulez également participer, composez les 081-890-6394.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Bandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage style papillon et j'en passe. Okapi Sport. Un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Comment préparer un projet bancable? Ogi Bendelo, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour, je vous dis Daniel Kachama, je salue nos invités qui sont au plateau. Et bon début de semaine à toutes et tous ceux qui sont branchés en ce moment.
Bien, on vous écoute maintenant, là quelle est la question?
Oui, je dis, j'ai bien suivi nos invités. Bon, j'ai d'ailleurs bien compris. L'invité a parlé du titre de projet sur les points qu'il citait. Il a parlé du contexte du projet aux justifications, les objectifs du projet, méthodologie, les points, quelles sont les activités à réaliser. Et maintenant, moi, je me suis basé vraiment sur le sixième ou septième point, les indications qui doivent être réalisé. Alors, je voulais lui poser la question parce que j'ai bien entendu, je dis, notre invité se base surtout sur les écoles. Je ne sais pas, le projet doit être seulement sur les écoles ou bien il faisait seulement mention pour nous donner exemple. Alors, mes deux questions sont les suivantes. Sur les indications, par exemple, si le projet est basé sur les étangs, pour faire les étangs sur une savane, bon, quelles peuvent être les indications plus précisément? Et ma deuxième question est de savoir qui peut solliciter le financement, seulement celui qui a fait hein, les finances, la gestion, ou toute personne de bonne volonté ou de compétences, de bonne manière peut aussi en procéder. C'était la meilleure question aujourd'hui. Bonne suite des programmes sur les antennes de la radio Capi.
Bien, merci docteur Freddy.
Non, l'école, comme vous l'avez si dit vous-même, hein, c'est un exemple que j'ai pu donner.
Okay.
Au départ, je crois que j'ai bien précisé que avant de rédiger un projet, on doit vouloir faire une évaluation pour identifier les besoins qui se posent dans une communauté bien déterminée. Ça peut être un centre de santé qui manque dans une localité.
Ça peut être la construction d'un pont.
Ça peut être la construction d'un pont, la route, la réhabilitation d'une route ou quoi là. Ce sont plusieurs besoins. L'école, c'est à titre indicatif que je l'ai cité. Les étangs piscicoles, comme vous le dites, si vous vous trouvez dans un endroit où il y a beaucoup de malnutrition, les régimes ne vous donnent pas de protéines animales, et qu'une communauté ou un groupe de gens pense qu'il faille passer par la construction des étangs piscicoles, c'est un besoin qui est identifié et qui peut être financé. Donc voilà ce que je pouvais dire. Donc c'est un exemple. Simplement.
Et il dit qui peut solliciter un financement.
Bon, tout le monde.
Tout le monde.
Oui. Vous savez, on réalise un projet pour le bénéfice de la communauté. C'est la communauté qui identifie. Donc, l'évaluation, la communauté elle-même peut faire l'évaluation de ses besoins. Tout comme un organisme qui opère dans un rayon bien déterminé peut venir auprès de la communauté faire l'évaluation et proposer un projet. Donc, c'est n'importe qui. La communauté peut demander un projet. Une église peut demander un financement. Une école qui existe peut demander un financement pour qu'on leur fournisse des bancs ou des livres scolaires ou n'importe quoi.
Oui.
Donc, c'est pratiquement tout ceux qui se trouvent dans une situation de besoins particuliers et que si c'est vraiment ces besoins sont bien identifiés et entrent dans l'ordre de priorité du bailleur de fonds, ces gens-là peuvent obtenir un financement.
Docteur Augustin.
Oui, merci beaucoup. Moi, je pense que tout a été dit par notre directeur général, mais j'aimerais, juste pour répondre à votre auditeur de 18, que pour le cadre des étangs, il y a beaucoup d'indicateurs. C'est combien d'étangs qu'on doit construire et quel est le nombre des alevins qu'on doit mettre dedans et que la production sera vendue à qui, ceux qui vont consommer, est-ce qu'il y a un cas de malnutrition, et après les étangs, est-ce qu'on sent que la population en protéines animales d'origine qui vient de poissons, est-ce qu'il y a eu amélioration dans l'alimentation des gens, est-ce que si c'est dans le cadre commercial, est-ce que ça a produit, il y a des revenus, on s'est fait de l'argent, etc. Donc il y a beaucoup d'indicateurs.
Alors docteur Augustin, on a l'impression que pour avoir un financement auprès des bailleurs de fonds, il faut au préalable avoir déjà entrepris, réalisé certains projets pour que le bailleur soit sûr.
Tout à fait. Et là, vraiment, vous touchez au poumon même de la question.
Oui.
J'aimerais dire ici, d'abord, que nous venons et nous sommes en train de parler des projets de développement. Et quand vous avez parlé de projet bancable, il faut que vos auditeurs comprennent que le projet bancable, c'est généralement aussi, c'est pour des banquiers. Il y a un financement qu'on peut demander à la banque.
Oui.
Et il faut montrer que vous serez à mesure de rembourser cet argent à partir d'un projet.
Oui.
Mais nous parlons beaucoup plus de projets de
projet
développement.
De développement.
Et ça se comprend un peu bien.
D'accord.
Alors, donc, pour revenir à votre question, oui, il ne faut pas être inondé de mallettes. Hein, c'est ça, on en parle souvent.
Oui.
Il faut être inondé assez assise et qui a une référence, qui a des bureaux et qui, avec des moyens propres, a fait un pas. C'est ça que actuellement le bailleur de fonds exige. Il faut que les ONG fassent déjà un pas, ils financent et même déjà une activité, et qu'ils soient limités par le moyen. Et là où ils sont limités, ils écrivent un projet, ils demandent au bailleur de fonds et immédiatement le bailleur de fonds peut facilement financer.
D'accord, je reviens à vous, le temps d'accueillir un maître Guilin de Boutembo. Maître Guilin, bonjour.
Bonjour, je suis à Beni, je dis bonjour à tous aux invités de la radio Capi, bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, Maître Guilin est à Beni et non à Boutembo, Tati. On vous écoute.
Oui, j'ai demandé l'assistance. Nous sommes en train de rédiger un projet, terme de référence et réalisation des 30 dossiers de suivi judiciaire et juridique lutte contre les violences sexuelles.
Oui.
Alors, nous sommes ça fait concerner au tableau indicateur des résultats. Alors, nous avons, c'est une assistance, j'ai demandé une assistance. En ce qui concerne les 30 dossiers réalisés, indicateurs de réalisation, nous avons indiqué sur 30 dossiers, nous serons capables de réaliser au moins 20 dossiers. Est-ce que Ça peut passer. Ça peut passer. C'est ça la seule préoccupation.
Donc, vous réalisez quoi? Vous avez dit, qu'est-ce que vous comptez réaliser?
Nous sommes termes de référence. Mmh. Donc, réalisation de 30 dossiers, suivi judiciaire de 30 dossiers de lutte de violence sexuelle.
Okay.
Alors, indicateur de résultats. Sur 30 dossiers, nous allons réaliser 25, nous allons suivre 25 dossiers. 25 dossiers au tribunal, au cours des tribunaux.
Oui. D'accord, merci. Arsène, vous nous appelez de Gatumba, au Burundi. Bonjour.
Oui, bonjour. Je suis très fier de m'associer dans l'émission, mais je demande à nos invités là au studio, parce que bon, je fais partie parmi les gens qui élaborent des projets, parce que nous avons une association sans but lucratif.
Oui.
Mais ce qui est grave et ce qui me préoccupe souvent, bon, il y a des associations qui sont au niveau de Bouvira, parce que je suis au moins à 200 mètres de Bouvira. Il y a des associations qui reçoivent des financements, ils mangent tout ça, mais de toutes les façons, comme les réalisations qui m'intéressent, on ne sait pas compte, mais des financements continuent à tomber. Alors je me pose la question de savoir, bon, pour avoir les financements, on tient compte d'une connaissance, ou bien on tient compte de la compétence ou des projets. Autre chose que je pose encore, bon, je me souviens à un certain moment, j'étais à Chabunda, il y a des projets que nous avions justement élaborés, bon, concernant la situation des réfugiés qui se trouvent là-bas. Bon, nous avons obtenu des financements, mais jusque-là, bon, ce n'est pas utile pour moi de d'épingler la maison qui nous ont financé. Mais de toutes les façons, je me pose, est-ce qu'on tient compte de la catégorisation des risques? Parce qu'on peut élaborer les projets souvent, on se rend compte que nous avons les moyens d'entrer sur le terrain où il y a trop de sécurité, la sécurité de l'unité, on ne sait pas maintenant comment arriver sur le terrain. Et ma toute dernière question, bon, et je me pose comme une question, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'inviter là au studio qui nous donne un peu de clarification concernant les financements en qualité de commerce? Est-ce que ça se focalise de la même manière sans lucratif? C'est ça ma préoccupation.
D'accord, merci Arsène qui nous appelait de Gatumba au Burundi. John, vous êtes à Magui en province orientale, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, John.
Je salue d'abord les JT. Je suis très intéressé par ce sujet. Depuis 2002, à Magui, j'ai réalisé beaucoup d'activités du développement avec les jeunes. J'ai ouvert les rues, les avenues, quelques avenues, et tout de suite. Mais à un moment donné, je me suis coupé de cette activité-là. Actuellement, je rêve toujours à faire ce que je faisais auparavant. J'ai rédigé jusqu'ici deux projets. Un, la réhabilitation de la route Magui-Magui-Port. Deuxième projet, c'est le reboisement de quelques sites qui étaient déjà déboisés, ça fait longtemps, avec la guerre qui a eu lieu par ici. Alors, ma question est de savoir, est-ce que l'invité ne peut pas élargir des succursales à travers le pays pour qu'on puisse faire le développement ensemble. Donc, il organise des succursales, il envoie ses personnels ici, ou soit il peut donner une adresse où on peut envoyer le projet, il étudie le projet et par après il répond pour la communauté de
Magui. D'accord, merci. D'accord, merci. Aloïs Sakaj, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, je suis Daniel Kachama et bonjour aussi à nos deux invités.
On vous écoute, Aloïs.
Oui, j'ai des petites questions à poser aux invités. La première question est celle-ci. Dans la deuxième étape de la rédaction du projet bancable, l'invité a indiqué que c'est le résumé de toutes les activités du projet dans sa totalité. Et il reprend d'ailleurs, selon que j'ai suivi son exposé, il reprend toutes les autres étapes qu'elle a indiquées, donc de la première à la dixième étape de la rédaction.
Oui.
Alors, quelle importance particulière a réservée aux autres étapes? La deuxième question, elle a des volets. Le premier volet est celui-ci. Quelle différence y a-t-il entre un plan de suivi et évaluation exécuté par le responsable du projet lui-même et celui exécuté par le bailleur de fonds? Parce que il me semble que dans le plan de suivi et évaluation exécuté par le responsable du projet, je ne sais pas, est-ce qu'à la fin, on va faire rapport au bailleur de fonds, et au cas où les rapports contiennent parfois des mensonges. Donc, je cherche un peu la différence entre les deux plans de suivi. Et le deuxième volet de la deuxième question était celle de demander à l'invité de me rappeler un peu la 9e étape dans la rédaction d'un projet, parce que je n'ai pas bien pigé par rapport à ça. Merci beaucoup.
D'accord, merci. On commence avec vous, docteur Freddy. Il y a plusieurs questions. Vous allez peut-être les recouper et répondre une fois pour toutes.
Oui, ce que j'allais dire dès le départ, hein, pour pouvoir donner beaucoup plus de chances pour qu'un projet soit financé, comme l'a dit mon collègue, il faut commencer par quelque chose. Je reviens à l'exemple d'une école que j'avais donnée.
Oui.
Si dans une communauté donnée, il existait une école primaire, par exemple. Après la guerre, l'école a été détruite ou quoi. La communauté se réunit, prend conscience de ses besoins. Et la communauté elle-même décide de fabriquer, par exemple, des briques cuites pour la reconstruction de cette école. Vous voyez que si cette communauté-là rédige un projet, ou se fait rédiger un projet par un organisme qui peut l'exécuter, si cette communauté dit « nous », nous avons déjà comme notre participation les briques, toutes les briques qu'il faut pour construire cette école.
Oui.
Et nous allons participer en apportant de l'eau ou en aidant ceci. Vous voyez que le bailleur de fonds sera beaucoup plus sensible parce qu'il sait, au lieu que je puisse financer ce projet à 100%, la communauté elle-même a déjà apporter une certaine participation. C'est la méthode participative. Donc, elle aura beaucoup plus de chances. Alors, revenons. Donc, ça, c'est ce que je voulais ajouter. Une question qui a été posée par notre ami...
Maître Guilain de Boutembo, qui parle des 30 dossiers de suivi judiciaire sur les violences sexuelles, alors il n'est à mesure de réaliser que 25.
Bon, là, je n'ai pas très bien compris.
Mais il a parlé peut-être des indicateurs.
Bon, les indicateurs, par exemple, mon collègue qui sait beaucoup plus...
Docteur Augustin, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Va revenir.
Oui,
mais la question que je me pose, pourquoi il prévoit suivre 30 dossiers qu'il présente au bailleur de fonds alors que lui-même sait qu'il n'est qu'à mesure de faire que 20.
25.
Il diminue ses propres chances parce que c'est quelqu'un qui n'est pas à mesure de réaliser à 100% les objectifs que lui-même
s'est
assigné pour le projet.
Docteur Augustin.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un problème d'objectif. Ici, il n'y a pas du tout question d'indicateur. Ça, c'est un objectif qu'on s'est fixé, de suivre 30 dossiers au parquet, à la justice. Mais on en réalise, effectivement, on fait suivre 25. Ça signifie que l'objectif n'a pas été atteint à 100%. Il est atteint, je pense, même à 80%. Donc, il y a un gap qu'il faut expliquer s'il y a vraiment eu des problèmes. Mais, comme l'a dit notre chef, le problème, c'est qu'il faut bien définir l'objectif. Hein, c'est ça aussi le problème dans des projets. Quand les objectifs, vous n'êtes pas à mesure de réaliser un objectif, mais vous le fixez sans vous référer à vos capacités, à vos compétences, vous pouvez facilement, ça peut vous poser des problèmes parce que à la longue, on verra que vous êtes incapable de réaliser les objectifs.
Oui.
Donc tout part de là. Il faut bien définir les objectifs. Donc c'est pas un indicateur, ce sont des objectifs qu'ils ont fixés.
Mais en guise d'indicateur, on peut dire ceci. Par exemple, pour les femmes victimes de violences sexuelles. Après votre campagne, par exemple, de sensibilisation, vous devez indiquer combien de personnes avez-vous réellement sensibilisées contre les violences faites aux femmes. Combien de cas avez-vous identifiés, hein? Combien de cas avez-vous référés vers les centres de santé?
Il faut être précis.
Voilà. Alors, si vous êtes dans un endroit où les violences sexuelles, c'est vraiment, il y en a un grand nombre, vous pouvez déterminer s'il y a 1000 femmes violentées, vous pouvez pouvez dire que nous, nous allons nous baser sur 100 femmes et à l'issue du projet, 100 femmes réellement auront été sensibilisées par nous, auront été identifiées et référées. C'est ça, voilà. Ce sont là les indicateurs.
Alors, docteur Augustin, Arsène de Burundi a parlé des associations qui reçoivent des financements et qui continuent qui utilisent mal cet argent. Et alors, il s'étonne, il se dit, est-ce qu'on donne les financements, c'est à cause des compétences ou c'est à cause de certains arrangements qui se font? Et puis, il a parlé aussi, ils ne peuvent pas réaliser leur projet à cause de l'insécurité qui est dans les milieux. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, écoutez, moi, je pense que je ne sais pas de quel genre de projet qu'on a financé et qui ne sont pas réalisés. Je pense que tout bailleur de fonds, avant de sortir son argent, il y a une étude très, très minutieuse du dossier pour voir est-ce que réellement le beau dossier ou le projet vaut la peine d'être financé. Et dans ce que le DG a dit au départ, je dois souligner que il y a un besoin d'abord qui est exprimé. Il a dit un besoin avant de venir avec écrire un projet et commencer à demander le fonds. Un besoin, et le besoin est exprimé par la population cible. Et s'il y a réellement eu un besoin, il n'y a pas de raison qu'un projet qui est bien identifié, avec des besoins bien spécifiques et bien clairs, ne puisse pas être réussir dans sa mise en œuvre. Maintenant, si c'est lié aux hommes qui le mettent en œuvre, ça c'est un autre problème. Moi, je pense que ça, le bailleur de fonds devra éventuellement voir comment il va le faire. Mais pour l'insécurité, moi je pense que ça c'est un paramètre que personne ne peut contrôler. Si on a, quand on a démarré le projet, il y avait la paix et ensuite il y a l'insécurité. Bon, je pense que c'est des problèmes, enfin c'est la faute à personne. Il faut attendre dès que la paix revient et continuer avec le projet.
Voilà. Le docteur Freddy.
Les bailleurs de fonds, ils ne sont pas dupes, hein, ce sont des organisations aussi qui sont...
Sans vous couper, vous savez, il y a madame Mathy qui vient de nous écrire depuis ici, elle dit, mais pourquoi les bailleurs de fonds rejettent souvent les projets? Moi, j'ai demandé de l'appui sur l'agriculture depuis 5 ans, mais tous les projets qu'elle a introduits sont toujours rejetés.
Bon, voilà, c'est ce que je veux dire. Les bailleurs de fonds aussi se garantissent d'un certain nombre de précautions. Qui demande le financement? Prenons le cas de Madame Mathy. Madame Mathy, peut-être, elle est comme telle, individu comme telle. A-t-elle déjà géré? Elle demande des projets dans l'agriculture, dans le domaine agricole. Qu'est-ce qu'elle fait comme activité? Qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Est-ce que ce besoin-là est ressenti dans la communauté où elle est? Est-ce que Madame Mathy, si un bailleur de fonds quelconque mettait de l'argent entre ses mains, elle a une certaine expérience de gestion? Voilà, ce sont des paramètres. Et souvent, les bailleurs de fonds, parfois, font des appels à manifestation d'intérêt. Voilà, j'ai des fonds, j'aimerais intervenir dans un domaine bien déterminé. Par exemple, à Ouvira, il y a eu des restrictions suite à la guerre ou ceci, au déplacement des gens. On veut faire renaître l'agriculture. Qui sont les gens qui pensent que on peut mettre de l'argent à leur disposition pour faire des activités agricoles? Vous manifestez vos intérêts et à partir de là, on va étudier. Vous êtes mis en concurrence. Vous êtes peut-être 20 ou 30. Parmi les 20, on doit pouvoir choisir qui sont les plus crédibles. Si, par exemple, les diocèses d'Ouvira demandaient un financement et vous, Madame Mathy, vous êtes un individu, vous demandez un financement. Selon vous, si on doit financer une personne, à qui on va donner l'argent?
Bien sûr, évidemment.
Parce que le diocèse, c'est une personne morale qui est là, qui ne va pas fuir pour revenir au cas de notre ami qui a dit que non, on a donné l'argent, il a utilisé le terme entre guillemets, on a mangé l'argent, bouffé l'argent ou quoi là. Non, mais le diocèse ne va pas le faire parce que le diocèse est bien identifié. Alors, si c'est une ONG qui travaille déjà dans la communauté, dans un secteur bien déterminé. Cette ONG a des structures qu'on connaît, cette ONG est identifiable, a des bureaux ou quoi là. Cette ONG ne peut pas fouiller. Cette ONG a géré peut-être des montants beaucoup plus importants que ce qu'on peut lui donner maintenant pour la gestion. Donc il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte.
Docteur Augustin, il y a John Demag qui a dit qu'il a réalisé des projets avec les jeunes, la réhabilitation, le reboisement. Et il demande, est-ce que vous pouvez, il veut travailler avec vous. Est-ce est-ce que vous ne pouvez pas collaborer avec lui et donner une adresse ou un numéro par lequel il peut vous contacter pour collaborer?
Écoutez, dans le passé, nous, notre organisation, on était à Magui. Nous avions travaillé à Magui. C'est la zone que nous connaissons aussi mieux. Mm-hmm. Mais je me dis, on ne peut pas se mettre à réaliser des projets individuels. Hein. Lui s'est mis à faire avec des jeunes. Est-ce que c'était dans quel cadre qu'il fait ces routes-là, qu'il fait les avenues, qu'il a fait le reboisement? Est-ce qu'il y a une organisation? Est-ce que l'organisation a un nom? Ou c'est juste M. John qui, par sa propre initiative, il est parti, il l'a fait? Mm. Si c'est par sa propre initiative, c'est comme venait de le dire, Richard, c'est difficile de se mettre à financer un individu. Donc il faut se mettre dans une structure et que ce que vous faites réponde réellement aux préoccupations du bailleur. Un bailleur de fonds qui vient pour aider le pays, par exemple dans la gouvernance. Et vous allez venir, vous dites, non, moi j'ai des routes, donnez-moi l'argent. Ben, évidemment, il va dire, mais moi c'est pour la bonne gouvernance, moi c'est pas pour les routes.
Voilà, c'est ce que nous dit d'ailleurs Mutombo de Kananga. Il dit, les bailleurs des fonds mettent beaucoup d'argent dans les créneaux qu'ils ciblent, même si vous faites bien votre projet.
Ah ben voilà. Donc il faut que ça réponde aux appels d'offres. De bailleurs de fonds. Le bailleur de fonds vient pour aider à la réintégration, à réintégrer tous les déplacés internes qui avaient fui. Ils veulent les réintégrer dans leur milieu d'origine. Mais vous venez, vous dites, non, moi, j'ai un projet, c'est pas moi, de l'agriculture.
On va dire,
non, nous d'abord, c'est la réintégration.
D'accord.
Mais évidemment, quoi que l'agriculture peut faire partie de la réintégration, mais ils ont leurs priorités. Donc, il faut bien cibler.
Il faut se conformer aux priorités des bailleurs de fonds. Docteur Freddy, il y a Aloïs qui a parlé du plan de suivi exécuté par l'ONG, le plan de suivi des bailleurs. Parlez-nous un peu de ce plan de suivi, comment ça se passe.
Je reviens, mais avec votre permission, je dirais à M. John de Mahagui que notre ONG a dû construire le tribunal de paix de Mahagui.
Okay.
C'est notre ONG qui a construit ce tribunal de paix là-bas. Et nous sommes, nos bureaux les plus proches, c'est Bounia. Hein, nos agents, nous avons un projet financé par les PAM. Nous faisons les distributions générales de vivres. Et Mahagui, c'est l'un des rayons que nous couvrons. Donc, s'il s'approche de nos bureaux de Bounia, Adès Bounia, il aura les informations les plus capitales.
D'accord.
Alors, M. Aloïs de Kananga demande
le plan de suivi
entre l'évaluation qui est faite par le responsable de l'ONG et l'évaluation qui est faite par
le
bailleur de fonds. Non, les tout forment un ensemble. Parce que l'ONG, par exemple, qui est en train de rédiger un projet, l'ONG doit soumettre, par exemple, mensuellement, un rapport de l'évolution des travaux au bailleur de fonds.
C'est ça.
Et pour que, qu'on puisse, si le bailleur de fonds est ici à Kinshasa, le bureau de l'ONG qui réalise est à Bounia. Si nous devons répondre, nous devons remettre à la fin du mois un rapport au bailleur de fonds qui est à Kinshasa, il est clair que nous devons envoyer quelqu'un de notre qui l'aille à Bounia, qu'il regarde ce que notre bureau de Bounia nous dit, est-ce que c'est vrai à réaliser. Et nous rédigeons un rapport que nous envoyons là-bas. Et très souvent, les bailleurs de fonds, quoi qu'ils aient leur quartier général ici à Kinshasa, ils ont des bureaux de représentation en province. Donc, si c'est le PNUD qui finance, le PNUD est représenté aussi à Bounia. L'ADES qui est à Bounia fait le rapport au PNUD. Voilà, à Mambasa, nous venons de faire ceci, l'école que nous construisons là-bas, nous venons de terminer la fondation. Notre bureau va remettre un rapport mensuel. Mais les bailleurs, les loisirs aussi,
d'aller
d'envoyer
faire le suivi,
des évaluateurs.
D'aller
oui, ils peuvent aller aussi parfois avec nos responsables de l'ONG. Allons ensemble, allons voir. Et le bailleur fait lui-même son rapport. À la fin du projet, l'ONG ou l'agence qui a exécuté fait son rapport final. Nous avons
Docteur Freddy, on n'a plus beaucoup de temps. C'était tellement intéressant, on a envie de continuer, mais on doit s'arrêter là pour aujourd'hui. Aloïs a demandé le 9e point, c'est le budget. Vous avez parlé du budget, il faut rédiger le budget de votre projet. Merci Docteur Freddy Mbakata Poutou, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ONG ADES et merci à Dr. Augustin Kapika, chef de projet de l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup. Merci.